L'ombilic des limbes, l'émission de sciences sociales et sciences humaines, présentée et produite par Hélène Bonis-Montoya. Bienvenue à chacune et à chacun sur Fréquence Mistral. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer cette émission par un poème qui s'appelle « Écoute ». Quand je te demande de m'écouter et que tu te mets à me donner des conseils, tu ne fais pas ce que je te demande. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas me sentir comme ça, tu piétines mes sentiments. Quand je te demande de m'écouter et que tu sens que tu dois faire quelque chose pour résoudre mon problème, tu me trahis, aussi étrange que cela puisse paraître. Écoute. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Pas de parler ni de faire, juste de m'écouter. C'est avec ce poème d'un poète inconnu que je vous propose d'entrer dans l'émission sur l'écoute aujourd'hui. Marie Buchy sera notre invitée et partagera avec nous son expérience d'animation de Café Parents. Tendre l'oreille ou avoir l'oreille tendre, cela pourrait résumer l'écoute. Autour de nous, tout est son, et c'est avec ce sens auditif, grâce aux oreilles, que nous entendons et plus subtilement que nous écoutons. Le premier lieu où nous nous exprimons dès le plus jeune âge est la famille. Celui qui prend la parole pour exprimer un ressenti, des émotions, un point de vue, attend de l'autre, en général, de l'attention. Pour parler, il faut en principe être dans ce que l'on appelle la relation avec l'autre, donc à minima être au moins deux personnes. À trois, cela fait bien entendu penser à la structure familiale père, mère, enfant. Chaque histoire compose une famille, chaque famille a une histoire, des liens. Et il y a une expression qui dit qu'une famille est composée de personnes qui s'entendent plus ou moins bien. D'ailleurs, cette expression « s'entendre plus ou moins bien » est révélatrice d'une qualité ou d'un manque qui pollue l'écoute. Nous venons d'écouter le groupe Bashrat, la musique arabo-andalouse jouée par Cèdre. Peut-on communiquer sans parler et peut-on écouter celui qui ne parle pas? Allons voir du côté des bébés, de ceux qui justement sont nommés l'infance, à savoir celui qui ne parle pas. Regardons comment ces bébés manifestent l'expression de leurs besoins de communication. Quand un nourrisson s'exprime et qu'il a des choses difficiles à dire, des larmes coulent de ses yeux et lorsqu'il appelle sa mère, il crie sa faim et sa soif, mais aussi un désir éperdu d'être câliné, bercé, consolé. L'adulte qui l'écoute peut décrypter ce pleur comme une demande et, s'il a faim, lui donner le sein ou un biberon. Agrippé goulûment à ce sein, le bébé va vivre un rapport fusionnel, absolu, excluant toute autre relation. Cette infance veut vivre dans le sein des saints, et sans nul doute, l'adulte aussi. Mais une fois rupu, le sein est retiré et la frustration du bien-être perdu s'installe. Et c'est de ce désir de sa présence, alors que l'adulte s'en va, qui pousse le nourrisson à établir une image mentale de son référent maternel, afin que celle-ci ne soit jamais partie pour toujours. Marie Buchy, bonjour.
Bonjour.
Vous animez à Manosque et à Fort-Calquier des cafés parents. Mm-hmm. Bienvenue dans l'ombilic des limbes. Pourquoi l'écoute est-elle si nécessaire à une bonne relation ?
D'abord, merci de m'avoir invitée. L'écoute, c'est vraiment la base de la relation entre la mère et l'enfant. Et au début, l'écoute se traduit par le regard, déjà. C'est vraiment par observer l'enfant, qu'est-ce qu'il peut ressentir. Et la maman est là pour, en quelque sorte, traduire les ressentis de l'enfant, pouvoir lui nommer et l'aider à identifier ce qu'elle ressent. Et donc, il découvre et il commence à identifier ses ressentis intérieurs. Ce qui est très apaisant pour un enfant, même un tout petit. Parce que du coup, quelque chose qui pouvait être effrayant, douloureux, a un mot. Et du coup, peut être identifié. Et la prochaine fois que cet état se représente, il sait ce que c'est. C'est beaucoup moins effrayant. Même si la douleur est toujours là, même si la faim est toujours là. En tout cas, c'est constructeur. L'écoute est constructrice.
Merci. C'est un peu comme si, sous forme de rythme et de modulation, d'intonation ou de mélodie, le nourrisson adresse à son entourage, par ses vocalises sonores quand il est tout petit, quand il n'a pas les mots pour le dire, quand il a des cris significatifs chargés parfois de sourire ou au contraire de tristesse. C'est comme si ce petit être parlant tente d'habiter ses parents, leurs pensées et leur langage. Mais pensez-vous, Marie Buchy, que cette autonomie du tout-petit doit être déterminante pour tenter de parler à ses parents ? A-t-il besoin déjà d'utiliser des pleurs ou du rire pour communiquer ? Peut-il communiquer autrement ?
Peut-il communiquer autrement ? Certainement.
Peut-être par la conscience de la présence de l'autre, puisque, comme je le disais au début de l'émission, pour communiquer et pour s'écouter, il faut être deux, parce qu'on peut parler tout seul, mais on est quasiment certain de s'entendre.
Oui, d'accord. Je voyais pas exactement où vous vouliez en venir, effectivement. Communiquer lui permet aussi de concevoir qu'il y a quelqu'un d'autre en face. Parce que pour lui, c'est pas si évident que ça. Quand il est tout petit, il a l'impression que lui, sa maman, son entourage, le monde extérieur, tout ça, c'est une seule et même chose, et c'est lui. Et pourtant, quand il y a une distance, il y a quelque chose d'incompréhensible, en fait. Et c'est une nécessité de communiquer. C'est vital.
Et cette perception qui est difficile pour le tout petit à avoir, est-ce que, par contre, les parents que vous rencontrez le savent ?
Je ne crois pas. Certains en ont l'intuition. Je crois que beaucoup de parents en ont l'intuition et que parfois, quand les choses se passent mal avec l'enfant, Ça peut être lié à une difficulté à la naissance. Un accouchement difficile peut rendre la rencontre compliquée. Et puis, certains parents qui n'ont pas été entendus ont du mal à entendre. Parce qu'ils n'ont pas le modèle. Mm-hmm. Et donc, c'est plus compliqué pour eux.
Est-ce qu'on pourrait penser que les perceptions sensorielles, le toucher, le goûter, permettent à l'enfant d'imaginer, de percevoir ce qui est à ses côtés mais qui ne se montre pas, par exemple, ou ce qui existe mais qui n'est pas là au moment où il en a envie, dans cette ère intermédiaire qui amène l'histoire renouvelée de la présence et de l'absence, de la bonne ou de la mauvaise mère, comme le disait ce grand médecin et psychanalyste qui était Winnicott. À votre avis, cette histoire renouvelée de présence et d'absence, dans l'écoute, comment arrivez-vous à parler de cela avec les parents pour qu'ils, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, Marie Bugy, c'est que l'écoute permet de comprendre.
Pour l'enfant, et pour le parent aussi. En fait, le fait d'observer et d'écouter permet de comprendre qu'est-ce que peut bien ressentir cet enfant-là, sans plaquer une recette qui serait identique pour tous les enfants. Chaque enfant a des besoins, des sensations, une capacité de supporter la frustration très différente. Pour certains, ils peuvent attendre un peu, un biberon, pour d'autres, ou une tétée. Pour d'autres, c'est totalement impossible. Donc, de prendre en compte le fait que chacun est singulier.
Donc, par exemple, ça signifierait qu'une famille qui a 3 enfants, le premier enfant mangeait bien, le deuxième enfant n'avait jamais faim et le troisième enfant avait toujours faim.
Par exemple.
Donc, 3 enfants uniques, donc 3 comportements d'écoute
absolument
différents. Vous dites. C'est-à-dire chaque enfant est une personne à part entière.
Oui.
Et l'écoute doit passer par cette compréhension de son altérité, de son existence unique et spécifique.
Et du coup, chaque parent est différent à chaque fois. Il ne sait pas qui arrive, quel enfant arrive. Et le parent, il est récepteur de la parole de l'enfant, ou des pleurs du bébé, ou des signes de désarroi du bébé. Et il est là pour recevoir et traduire, et mettre en mots qui permettent à l'enfant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, vous parliez de Winnicott. Pour moi, une des grandes références, c'est Wilfrid Bion, qui faisait aussi partie de l'école anglaise, qui a vraiment amené cette idée que la maman est là pour transformer, pour métaboliser les ressentis de l'enfant et lui permettre ce qui s'appelle la fonction alpha, et lui permettre de transformer des choses qui pourraient être dans son univers inidentifiable et presque un peu dangereuse, et d'en faire ce que lui a appelé des éléments alpha et qui construisent sa structure psychique. Il sait ce que c'est. J'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, je suis en colère, je suis effrayée. Ça construit.
Merci beaucoup. Je vous propose que nous écoutions justement la chanson « Le doute » de Chloé.
Est rassurante, mais parfois si morose, ou finalement si fragile. On s'emballe pour un choix et la lutte est installée. Ça nous grise et ça nous brise. On ne sait jamais quand il s'arrêtera et s'il s'arrêtera. Et c'est si vrai. Choisir, ça renoncer. Choisir est tenter de féliciter ou de regret potentiel. Ça nous brise. On sait jamais quand il s'arrêtera, s'il s'arrêtera. Il paraît que la jalousie se nourrit dans les doutes. J'y répondrai que la philosophie également. On s'emballe pour un choix et la lutte est installée. Ça nous brise et ça nous brise. On sait jamais quand il s'arrêtera et s'il s'arrêtera. Pour moi, le doute est un labyrinthe vers tous les possibles où la pensée se construit. On s'emballe pour un choix et là le doute s'installe. Ça nous grise et ça nous brise. On sait jamais quand il s'arrêtera et s'il s'arrêtera.
Écouter, par définition, implique un bruit, une source sonore que nous avons une tendance naturelle à essayer d'identifier. Car nous aimons savoir ce qu'est ce bruit que nous écoutons. Écouter l'autre, dès lors qu'il y a relation humaine, ne procède pas autrement. Il ne s'agit pas uniquement d'entendre avec notre sens auditif les mots prononcés, mais d'identifier ou de comprendre ce qui est dit. Et c'est là que les difficultés commencent. Car là où il y a quelqu'un qui a dit des mots et qui de ce fait en détermine le sens, parfois, celui qui est en face n'entend pas ce qui vient d'être prononcé. L'écoute implique d'entrer en contact avec ce monde à part entière, en même temps que pour nous-mêmes cet autre univers qu'est tout être humain. L'écoute demande avant toute chose une attention libre, une disponibilité à recevoir, à laisser venir à soi. Mais Marie Bucci, vous qui êtes notre invitée aujourd'hui dans l'ombilique des limbes et qui organisez et animez les cafés parents sur Fort-Calquier et Manosque, dites-nous comment des parents lucides qui voudraient comprendre l'échec de leurs efforts d'élevage, comme disait Françoise Dolto, peuvent être toujours disponibles pour recevoir ce que leur dit leur enfant.
Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé le poème que vous avez lu au début et que ça répond entre autres à votre question. C'est quand, dans ce poème, il est dit « Quand je te demande de m'écouter et que tu te mets à me donner des conseils, je me sens, tu ne fais pas ce que je te demande », et que c'est souvent un obstacle à l'écoute et à la communication. Quand, si j'avance quelque chose, si je dis quelque chose, j'ai mal, un enfant qui tombe et à qui on dit « mais non, c'est pas grave », qui pleure et à qui on dit « mais non, c'est pas grave », il y a quelque chose d'un message qui n'est pas entendu. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, pour lui, à ce moment-là, il a mal.
Donc son langage, sa compréhension à lui va passer par son ressenti de mal-être.
Mm-hmm. Et en face,
même
il y a
même s'il ne parle pas, il va par exemple se mettre à pleurer. Et là, l'adulte
dit « c'est pas grave ».
Voilà.
En fait, on peut dire que c'est souvent la peur, le manque de temps, la fatigue. Tout ça, c'est un peu des obstacles qui fait que quelque chose qui survient peut être dérangeant, peut-être parce que effectivement je pense que je dois répondre. Mon enfant qui rentre de l'école et qui dit « tous mes copains me détestent » ou « j'ai été rejeté par tous mes copains », ça peut faire très très peur. Personne n'aime mon enfant. Est-ce que mon enfant est désagréable à l'école ? Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du parent ? Et du coup, il dit « tu vas voir, ça va aller mieux demain. C'est sûr, ça ira mieux demain. » Donc en fait, l'enfant, il reste avec sa difficulté. Mais parce que effectivement, il y a une sorte d'interférence entre le ressenti de l'enfant et le ressenti du parent.
Donc en fait, dans vos cafés parents, vous invitez des adultes pour parler de cela et chacun va apporter une expérience, par exemple.
Voilà. Et du coup, justement, de pratiquer déjà entre nous et de les inviter à pratiquer en identifiant qu'est-ce que c'est que vraiment écouter. Et qu'est-ce que ça me fait d'écouter mon enfant quand il parle comme ça ? Et de repérer, en fait, si je dis « Oh là là, t'es bien un petit peu chochotte » ou « Est-ce que tu es frileux ?» ou « Mais dis donc, t'es un vrai trouillard !» Enfin, tout ce qui, en fait, met du jugement à l'endroit où l'enfant est juste en train de parler de quelque chose de l'ordre de son ressenti. Donc, en fait, on pratique l'écoute, on pratique ce qui s'appelle l'écoute active, c'est-à-dire une écoute qui donne du sens, qui pose des mots là où on suggère peut-être un état, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'imposer quelque chose, mais de « Ah, et tu t'es peut-être senti un peu comme ça quand tes copains t'ont rejeté, tu t'es senti tout seul, tu t'es senti malheureux. » Et à ça, l'enfant peut répondre, peut dire « Non, je ne me suis pas senti comme ça. Je me suis senti abandonné. » Voilà, ça lui permet de préciser. L'écoute active permet de préciser. Et ensuite, on repère aussi, par des jeux de rôle, par toutes sortes de choses, les empêchements à la communication.
Et les parents qui pratiquent, puisqu'en fait, vous proposez un atelier pratique dans ce café parents, sont plutôt des parents qui sont confrontés dans leur quotidien de parents à ces difficultés-là, ou qui viennent plus en curieux ?
Les deux. En général, s'ils viennent, c'est qu'ils en ont un petit peu besoin, tout de même. Je ne crois pas qu'il y ait un seul parent qui ne soit pas de temps en temps en difficulté. Et donc une volonté aussi, je pense, d'être plus en harmonie, d'être sûr, d'être plus à l'aise, plus en accord avec leur enfant.
Et ceci est valable toute l'année ? Ces cafés parents que vous organisez, que vous animez,
oui, sont de septembre à juin.
De septembre à juin.
Oui.
D'accord. Alors c'est important parce que ça signifie, de ce que nous dit Marie Buchic, qu'effectivement il y a une sorte de souplesse dans le mode relationnel que l'on peut acquérir, parce que fréquemment, quand on entend... On est dans un jardin public, on voit un enfant qui tombe, on entend majoritairement le parent lui dire « ce n'est pas grave », peut-être, comme vous l'expliquiez, Marie Buchy, la peur des regards, le être mal à l'aise si l'enfant se met à crier. Donc il faut expérimenter cela. Ce que j'entends de votre proposition de ces animations de Café Parent, c'est qu'en fait, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul à vivre ça avec l'enfant, donc on dédramatise, c'est cela ? Ce qui arrive à la maison ?
Oui, bien sûr.
Que si l'enfant n'est pas aimé de ses amis, et que cela peut faire peur au père ou à la mère, eh bien on peut rencontrer quelqu'un dans le café parent qui peut apporter la même expérience, mais un vécu différent, bien entendu.
Il y a ça, et surtout, en fait, ce dont a vraiment besoin l'enfant, on revient au poème, c'est d'en parler. C'est de pouvoir vider le trop-plein d'émotions, de pouvoir poser ça. Ensuite, les solutions, il les a, il les trouve. Il y a vraiment cette compétence qu'on a tous, qu'on a besoin, émotionnellement, on a besoin de parler de ce qui nous arrive. Et cette décharge émotionnelle permet aussi de dégager une énergie psychique qui était prise par la douleur et qui là, il peut y avoir de la compréhension qui se met en place, il peut y avoir une autre intelligence qui se met en place et qui permet de... La preuve, c'est que dès qu'on donne des conseils, l'enfant dit « mais c'est pas ça que je sais faire ». Ça...
Oui, il a tendance à renvoyer le ballon oui. dans le camp oui. adverse.
Ce que je peux dire, c'est que pour les parents, le fait que d'entendre que l'écoute est quelque chose de primordial, et moi, c'est ce que ça m'a fait aussi quand j'ai découvert... ces cafés parents auxquels j'ai participé, moi aussi, il y a une quinzaine d'années. C'est très reposant, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour répondre. Ça déstresse, c'est libérateur, presque. On est là pour écouter. Et c'est comme s'il y avait une augmentation du temps et de l'espace. Mm-hmm. Puisqu'on est, on est déjà simplement récepteur de la parole de l'enfant. Et c'est déjà énorme dans la relation. Ça a changé beaucoup de choses, pour moi en tout cas, et d'autres parents qui ont découvert exactement la même sensation.
Je vous propose d'écouter un morceau de musique de jazz, cette fois-ci, pour Nana. Marie Bucci, si j'ai bien compris, être entendu, qui est un fait apparemment simple, se révèle d'une puissance remarquable. Et être entendu, c'est se sentir exister, pris en compte, considéré. Alors que vous nous avez expliqué qu'à l'inverse, ne pas être entendu, c'est ne pas se sentir considéré, c'est peut-être même se soumettre si l'autre est plus fort ou s'il est en position de pouvoir. Et cela aurait donc comme conséquence, peut-être, de se décourager, de baisser les bras, ou à l'inverse, de tenter de résister si on en a un peu les moyens, ou en tout cas avec les moyens du bord. Donc, cette écoute qui peut ne pas avoir lieu peut avoir des conséquences extrêmement dommageables pour un jeune enfant.
Absolument, oui. Un exemple qui est intéressant, c'est qu'un jeune enfant à qui il arrive effectivement quelque chose qui se passe mal à l'école, dans la cour de l'école, qui essaye d'en parler avec son papa ou sa maman quand il rentre le soir, qui n'est pas entendu pour X raison, pas le temps, pas disponible, ou effectivement de dire c'est pas très grave, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Le lendemain, quand il retourne à l'école, il n'y a pas eu d'éclaircissement. Donc il est encombré avec ça. Donc à l'école, il va être moins disponible. Donc il va moins écouter. Donc peut-être qu'il aura une mauvaise note. Et donc ensuite, ses parents vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as des mauvaises notes. » Donc il va commencer, si la situation se perdure, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va commencer à avoir de moins bonnes notes. Du coup, d'être un peu discrédité, de se sentir dévalorisé. Et c'est d'une petite soir où il n'a pas été entendu, quelque chose de peut se... Il y a comme un engrenage, comme une réaction en chaîne.
Oui, la situation peut s'aggraver alors que prise de manière simple, dans une écoute attentive,
absolument,
ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, l'enfant peut poursuivre son chemin. C'est comme si, en fait, il avait une corde qui entravait à un moment donné son chemin pour des questions, si j'ai bien compris, émotionnelles.
C'est
essentiellement
ça.
Émotionnelles.
Essentiellement.
Donc, cela dit, il n'y a rien d'évident quand même au fait d'écouter ou d'entendre une autre personne. Parce qu'écouter, cela demande un étrange mélange où il faut se mettre suffisamment de côté soi-même tout en étant résolument présent, être libre d'une volonté de résultat, tout en restant réveillé et en attention, c'est-à-dire en tension vers un but. Donc en fait, c'est un exercice qui semble quand même assez contradictoire.
Sauf que je pense que quand on se donne à cet exercice, on développe des compétences, justement. On développe cet espace d'écoute et de disponibilité, en fait. C'est vraiment ça qui fait que l'écoute a du sens.
Et Marie Buchy, donc dans vos cafés parents que vous organisez et animez sur Fort Calquier et Manosque, le principe est une certaine régularité pour justement amener cette simplicité de faire, cette simplicité d'être dans l'écoute.
Alors là, c'est une régularité assez lâche, c'est-à-dire que c'est une fois par mois. Il y a eu d'autres périodes où on travaillait sur quatre week-ends d'affilée, quatre journées, quatre samedis ou quatre dimanches d'affilée. Donc un temps très restreint où on retransmettait tous les outils et ensuite on passait à un autre groupe, on retransmettait à un autre groupe. Là, c'est plus étalé sur l'année. Une fois par mois, du coup, les parents ont le temps de mettre en pratique et d'avoir peut-être d'autres questions. Et la régularité est intéressante. Mais en même temps, les groupes restent ouverts. N'importe qui peut commencer en cours d'année. Pour d'autres, ça permet de se remémorer certains outils. Du coup, je reviens dessus. De toute façon, on travaille à partir de des expériences que les parents amènent, de leurs difficultés, de leurs interrogations, de leurs réussites, de ce qu'ils sont en train de vivre.
Et il faut s'inscrire pour participer au café parents ?
C'est mieux. De toute façon, il y a une adhésion à l'association. Et voilà, il y a un, suivant, voilà, les conditions ne sont pas les mêmes si j'interviens à Fort-Calquier ou à Manosque.
C'est d'accord. Conditions. Donc, pour les auditeurs ou les auditrices qui seraient intéressés pour découvrir ces cafés parents, toutes les coordonnées seront également sur le site de Fréquence Mistral et de l'Ombilic des Limbes. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Marie Buchy à nos côtés qui anime ces cafés parents et qui nous donne quelques astuces, quelques conseils, à la fois pour renforcer une disponibilité dont tu as besoin, un besoin vital, si j'ai entendu tout à l'heure, si j'ai bien entendu tout à l'heure.
Absolument.
Il m'a semblé aussi vital de savoir écouter un enfant, par exemple, que de lui donner un goûter.
Vous savez à quel point l'écoute est importante et un enfant ne peut exister sans l'autre. Et les enfants qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas pris dans les bras, qui ne sont pas câlinés, qui ne sont pas... Oui, vraiment, écoutés, dépérissent. Et même si la situation s'aggrave, peuvent en mourir. Ils ont beau être nourris de lait ou de biscuits, la relation est tout autant vitale que la nourriture du corps.
Ça signifie que ces obstacles, quand il y a une non-écoute, peuvent représenter un handicap à vie dans le parcours de l'enfant ou à un moment donné, si l'enfant a le sentiment d'être écouté, tout ce qu'il a engrangé, tout ce que vous avez appelé tout à l'heure, qui était bloqué émotionnellement chez lui, peut d'un coup d'écoute... être levé ?
D'un coup, peut-être pas, mais je pense que rien n'est irrémédiable, à part les cas très très graves, sinon rien n'est irrémédiable. Je pense que l'écoute répare. Et d'autres, entre autres, c'est ce qui se passe dans les cabinets de psychanalystes ou de psychothérapeutes. C'est vraiment l'écoute qui répare et qui permet de comprendre qu'est-ce qui a été douloureux à ce moment-là.
Laisse aller, laisse venir, ne t'en fais pas pour l'avenir, ne t'en veux plus pour le passé, laisse tomber, laisse fuir, laisse aller, laisse courir, quand les rats quittent le navire, c'est pas la peine de s'aborder, laisse couler, laisse mourir, laisse passer, laisse pourrir, moi je te dis ça sans réfléchir, moi je te dis ça sans réfléchir, moi je te dis ça sans réfléchir. Laisse aller, laisse venir, quitte à choisir. Quitte à choisir, faut pas pleurer, vaut mieux en rire, ça va sans dire, ça va sans dire, comme la vie est triste à mourir, ça pourra toujours être pire. Laisse causer, laisse dire tous ces cancans de cours d'école, ces grands enfants pas du tout drôles qui sans rire te frappent au sol. Laisse pisser, laisse faire tous ceux qui se balancent par derrière. Je me demande s'ils en sont fiers, je me demande s'ils en sont fiers. Laisse aller, laisse venir, quitte à choisir, quitte à choisir. Faut pas pleurer, vaut mieux en rire, ça va sans dire, ça va sans dire. Comme la vie est triste à mourir, ça pourra toujours être pire. Laisse venir, laisse aller, la vie c'est comme l'amitié, ça va, ça vient, qu'est-ce que vous voulez? Salut Trombert, salut Hervé, je vous aimais bien, j'aimerais vous voir, mais c'est la foire aux vanités. Laisse pourrir, laisse tomber, laisse pisser, laisse pourrir. Laisse aller, laisse venir, quitte à choisir, quitte à choisir. Faut pas pleurer, vaut mieux en rire, ça va sans dire, ça va sans dire. Comme la vie est triste à mourir, ça pourra toujours être pire. We'll be right back. ça va sans dire. Comme la vie est triste à mourir, ça pourra toujours être pire.
Nous venons d'écouter le morceau de Philippe Huminski, Laisse aller, laisse venir. S'il y a toute forme d'écoute, Marie Buchy, il y a une réalité qui demeure et la personne écoutée perçoit consciemment ou non qu'elle est entendue ou alors elle ne le perçoit pas, ce qui, à de rares exceptions, veut dire qu'elle ne l'est pas. L'autre est entendu ou ne l'est pas, c'est là le critère de l'écoute. Au-delà de cette écoute, y a-t-il des conditions à remplir ou des obstacles rédhibitoires ?
Les obstacles rédhibitoires, un des obstacles, c'est le jugement. C'est d'apporter, de poser un qualificatif sur ce que ressent un enfant. C'est un des plus gros des obstacles.
C'est par exemple ce que Jacques Salomé appelait la communication tut-tut.
Par exemple,
voilà.
Oui.
C'est-à-dire...
C'est ça. Tu pourrais faire un effort.
Tu n'es pas courageux.
Tu n'es pas courageux.
D'accord. Donc, cette émission L'ombilique des limbes va prendre fin. Marie Buchy intervient donc sur le territoire de Fort-Calquier et de Manosque. Toutes les coordonnées sont disponibles sur le site de Fréquence Mistral et sur l'émission L'ombilique des limbes. Je vous retrouve dans 15 jours pour une émission dont le thème sera la transformation. Bonne semaine, merci beaucoup de votre écoute et de votre fidélité. Merci Marie Buchy.
Merci de m'avoir invitée.